On a quelques annonces. On vous appelle que nous diffusons la session en direct sur Zoom ce soir avec l'interprétation simultanée en français. Donc, on vous demande de mettre vos téléphones en mode silencieux lors des sessions et de vous abstenir de texter. Et il y aura de la danse dans cette salle jusqu'à 21h30. Pour des cocardes à votre nom, nous vous demandons de les déposer à l'extérieur. Le plastique extérieur de votre cocarde, bon, c'est pour les membres sur place dans la boîte, disponible à cette fin d'inscription. On les recycle d'année en année. Alors, est-ce qu'il y aurait des officiers actuels de la région 6? Je vous demanderai de vous lever puis de nous envoyer la main, s'il vous plaît. Est-ce que d'anciens officiers de la région 6, alors s'il vous plaît, veuillez vous lever et nous envoyer la main. Est-ce qu'il y aurait des administrateurs actuels des services mondiaux? S'il vous plaît, vous levez. Est-ce qu'il y a aussi des anciens administrateurs des services mondiaux. S'il vous plaît, vous levez. On va aller aussi saluer tous les États ou les pays présents. Alors, on vous demande de vous lever et puis de nous envoyer la main quand on va parler de votre région, le Nouveau-Brunswick. Il y a une personne. On n'a pas écrit de script pour cette partie-là. OK. Alors, prochain gars. Alors, y a-t-il des gens de Terre-Neuve-Labrador? La Nouvelle-Écosse? De l'Ontario. Du Québec. De l'île du Prince-Édouard. Alors, on fait maintenant les États. Le Connecticut. New Hampshire. Le Vermont. Rhode Island. Jean du Maine. Massachusetts. En l'honneur de ma nouvelle amie, New York, avec la prononciation. Les Bermudes. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de l'extérieur de la région 6? Bienvenue. OK. Alors, maintenant, on va maintenant passer au décompte de la sobriété. Donc, ça, c'est par rapport au temps dans le programme. Alors, on demande à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est debout? Alors, qui parmi nous sont dans le programme depuis une semaine ou moins? S'il vous plaît, nous envoyez la main et asseyez-vous. Une semaine ou moins. Pour quelqu'un? Quelqu'un qui est ici depuis un mois ou moins. Un an ou moins. Trois ans ou moins. Cinq ans au moins. 10 ans au moins. 10 ans. Qu 15 ans au moins. Vingt ans au moins. Quart de siècle, 25 ans ou moins. Trente ans au moins. Trente-cinq ans ou moins. 40 ans au moins. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici depuis plus de 40 ans? Restez debout, ceux qui sont ici depuis plus de 40 ans. Alors, je commence ici. Combien d'années? 47 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici depuis plus de 47 ans? 2 mains à l'arrière. Je pense que c'est Pat. Combien d'années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus que 48 ans? Combien d'années? Il y a une main là-bas. 50 ans. Il y a encore quelqu'un qui est debout. Combien d'années? Je ne peux pas t'entendre. 50 ans aussi. Ed? Je suis désolée. Désolée, c'est inaudible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 50 ans de mouvement? Donc, non. Donc, je vais demander. Alors, à l'administration de liaison de région 6 et à la présidente de région 6 de venir à l'avant, s'il vous plaît. Ah, c'est la première fois que je fais ceci, donc je vous demande d'être patient. Il faut que je lise ceci. Sandy, est-ce que ça va? Je pense qu'on essaie de cadrer tout le monde afin que vous puissiez les voir à l'écran. Est-ce que vous les voyez tous? Quatre personnes. On est fatigué. Tout va bien, Lorraine? Alors, c'est la cérémonie des chandelles. Donc, la première chandelle sera allumée par Bob. Cette chandelle est la chandelle de l'inspiration. Alors, la cérémonie des chandelles vise à commémorer les 64 ans d'existence des outre-mangeurs anonymes. Voilà, on aurait dû pratiquer cette cérémonie. Alors, cette chandelle est la chandelle de l'inspiration. Elle représente l'étincelle née du désespoir qui a donné naissance à notre fraternité. Nous allumons cette chandelle en reconnaissance de notre fondatrice, Rosanne, et au premier pionnier de OA qui, il y a 64 ans, ont répondu à l'appel et permis à une puissance supérieure de passer par des personnes ordinaires pour réaliser l'extraordinaire. La deuxième ch chandelle sera allumée par le membre de longue date le plus ancien. Alors là, la deuxième chandelle est celle de la persévérance. C'est par la persévérance que nous atteignons un rétablissement durable un jour à la fois. Nous allumons cette chandelle en reconnaissance des membres de longue date qui sont restés dans Outre-Mangeurs Anonymes au fil du temps, continuant de partager leur expérience, force et espoir et éclairant la voie pour le reste d'entre nous, nous rappelant toujours que le programme fonctionne si nous y travaillons. La troisième chandelle sera allumée par la personne la plus nouvelle présente ici. La troisième chandelle est celle du changement. En tant que nouveau, nous arrivons à OA, cherchant désespérément un soulagement à notre maladie, alors que nos attitudes changent au fil du travail des étapes et des traditions, nous découvrons une nouvelle façon de vivre. Nous allumons cette chandelle en reconnaissance de cette nouvelle vie qui nous attend. La quatrième chandelle sera allumée par la présidente de la région 6, Kimberly. La quatrième chandelle est la chandelle de l'espoir. L'espoir pour l'outre-mangeur qui souffre encore, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos réunions. Nous allumons cette chandelle en reconnaissance de ce programme donné par Dieu, puisse-t-elle servir à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'ensemble nous pouvons nous rétablir. Que ce phare lumineux proclame à jamais, bienvenue aux Outre-Mangeurs anonymes, bienvenue chez vous. Bonjour, j'aimerais vous présenter notre conférencière pour ce soir, Melissa de New York. Un moment, bonsoir. Bonjour, je suis Mélissa C. Je suis une autre mangeuse compulsive rétablie. Et merci, c'est vraiment incroyable. Merci pour tous les organisateurs de la région 6. Merci. Oui. Alors, je voulais voir si Lauren avait affiché mes photos. Vous savez, merci. J'aime bien partager mes photos quand je partage parce que je suis ici avec une mission aujourd'hui. Ma mission, c'est de... Je suis ici vous dire que c'est un programme que ma compréhension de la première étape, que y avait rien à autre qu'un miracle pourrait me libérer de l'obsession sur la nourriture. Et je suis une amoureuse du gros livre des AA et j'aime beaucoup toute la documentation, mais il y a vraiment quelque chose dans les 12-12 des AA qui le dit vraiment fortement. La première étape me dit quand je lis, seulement un acte de la Providence peut me retirer l'obsession. Nous sommes pris aux prises avec une obsession si destructrice que seulement un acte de la Providence peut nous libérer. Et puis, pour moi, un acte de la Providence, c'est une intervention miraculeuse. Et un acte qui va nous séparer de la nourriture. Une autre chose que ce livre me dit, c'est que je peux me rétablir. Donc, je ne le dis pas avec arrogance, mais je veux vraiment, je vous dis que je suis rétablie, mais je suis pas guérie. J'ai un rétablissement quotidien. J'ai une obligation d'entretenir ce miracle. Puis ça, je vois ça comme ma responsabilité qu'on m'a donné un cadeau et je dois la protéger et le chérir. Et la façon de le faire, c'est de me rétablir à voix haute. Je ne suis pas secrète à ce sujet. Je viens de la région de la vallée de l'Hudson de New York. devient la région de Cornwall. Je sais que ce qui m'est arrivé est un miracle. Je vais vous dire assez d'informations sur mon expérience que vous compreniez vraiment à quel point j'ai reçu un miracle et que peut-être vous puissiez déterminer si vous en avez besoin également parce que vous êtes censé pouvoir vous identifier avec moi, avec mon expérience de cette maladie pour savoir si vous allez devoir faire ce que j'ai fait ou ce que je continue de devoir faire. Je pourrais juste partager mes photos, ça c'est une manière. Alors, avec ce problème-là, parce que j'ai vraiment connu une véritable transformation physique et j'ai une démonstration visible du miracle qui est arrivé. Mais puis, je peux aussi parler de l'humiliation que j'ai vécue de vivre en tant qu'une obèse morbide. Je pourrais écrire un livre sur la douleur que c'était pour moi d'avoir un corps qui envoyait un message à mon sujet qui disait que je pouvais rien faire pour combattre cette maladie. Ça n'avait rien à voir avec mon intelligence ou mes diplômes. Ça n'avait rien à voir avec mes tentatives d'être une bonne personne, mais mon corps, le message que mon corps lançait au monde, c'était quelque chose que je pouvais rien faire à propos. Puis de ça, tout ce que je pouvais faire, c'était de manger. Ça pouvait apaiser temporairement la douleur de vivre dans un corps obèse. Je pourrais parler de ça. Puis je pourrais mettre l'accent sur toutes les conséquences d'être une autre mangeuse compulsive, des fluctuations de poids, la pression artérielle élevée, les régimes à répétition et les extrêmes auxquels je me suis soumise là, pour me débarrasser de ce poids-là. Dans les affres de ma maladie, je me suis déjà brisé une jambe en vue d'éviter une brosse alimentaire. Malgré que mon médecin m'ait dit de ne pas embarquer sur un tapis roulant, puis malgré tout, je l'ai fait. Je pensais que c'était une solution raisonnable. Donc, je peux vous parler de ça, mais mon pitch de vente à propos du besoin d'un miracle, le problème, c'est que peut-être que vous n'atteindrez peut-être jamais 300 livres. Vous pensez que vous aimeriez ne peser que 300 livres. Là, je vais vous parler de toutes mes folies, prendre des médicaments dont je connaissais même pas l'effet, parce que ce qui est arrivé, parce que si je parle seulement de ces expériences, vous allez peut-être penser que vous n'avez pas ce problème-là, ou que vous l'avez encore pire que moi, que ça fonctionnera pas pour vous. Peut-être que c'est pas si pire que ça, puis vous n'aurez pas à faire ce que j'ai fait, puis ce que je continue à faire. Donc, si je considère que j'ai une mission pour vous prouver que vous avez besoin de miracles, comment je vais faire ça? Donc, le gros livre dit que je devrais parler de mes états mentaux qui précèdent la première bouchée ou mon état d'esprit de ce qui se passe quand je commence à manger ou de ce qui se passe quand j'essaie de ne pas prendre cette première bouchée. Il y a une étude, une histoire particulière que je raconte, et c'est à propos d'être une petite fille le vendredi soir, puis dans ma famille, on avait un dîner du Shabbat, on est traditionnel dans ma famille. Ma mère attendait en ligne Elle attendait en ligne pour avoir acheté un gâteau particulier à cette boulangerie. Puis moi, je suis une de cinq enfants. Alors, ma mère sortait le gâteau. Puis avant même que ma part soit coupée, je savais que ça serait pas assez gros pour moi. Puis là, je me disais déjà, j'espère qu'il va en avoir assez pour moi. Puis j'étais petite. Puis là, je planifiais déjà d'aller dans la cuisine pour me retrouver seule avec le gâteau. Et puis, j'ai passé bien des soirées à descendre dans la cuisine en essayant de ne pas faire craquer les planches. Je savais comment mettre ma main dans le frigo sans faire allumer la lumière. Ça décrit ce qu'était la nourriture pour moi. J'ai disais ça à mon mari qui a pas ce problème-là. Je sais que c'est une entremangeuse compulsive parce que toutes mes premières mémoires d'enfant sont liées à la nourriture. Puis mon mari qui est né dans une famille traditionnelle italienne où il y a beaucoup de nourriture, il dit non, je pense pas que c'est ça. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de mémoires liées à la nourriture. Puis lui, il me raconte toutes les souvenirs joyeux à propos de la nourriture. Lui, ses mémoires sont liées à du contentement. Moi, c'était pas à propos de contentement. Je savais pas, mais j'ai ce problème. Il y a comme un endroit qui peut pas être atteint par la nourriture. Donc, à chaque fois que j'ai mangé compulsivement, j'ai jamais dit, ah, c'était vraiment bon. Ça a vraiment comblé mon besoin. Et puis, malgré tout, à chaque fois, j'espérais que j'atteindrai cette satisfaction. Alors, souvent, je planifiais mon régime. Et puis, quand j'arrêterai, je mangerai juste avant de commencer ma diète, là, je vais tout manger ce que je veux pour sortir ce désir de mon idée, mais j'ai jamais mangé assez pour me dire que j'étais complètement comblée. Parce que c'est quelque chose de. C'est impossible parce que je suis parfaitement impuissante devant ce besoin-là. J'ai toujours voulu savoir pourquoi j'ai ce problème-là. Pourquoi? Puis le gros livre des AA dit, dans le chapitre, il y a une solution. Les opinions varient considérablement sur pourquoi. L'alcoolique réagit différemment des personnes normales par rapport à l'alcool. On n'est pas certain pourquoi une fois qu'on atteint un certain point, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas répondre à l'énigme. Si vous êtes ici ce week-end, si vous êtes des nouveaux, si vous êtes ici dans l'espoir de trouver la réponse à cette question et que vous allez entendre ici, peut-être dans un atelier, l'histoire qui va répondre à votre question, puis que vous allez trouver pourquoi vous êtes comme ça. C'est pas, ce programme n'est pas à ce sujet-là et ce n'est pas une intervention miraculeuse. Ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps pour essayer de tenter de résoudre cette énigme. Et pourquoi j'ai ce problème? C'est une réponse à laquelle il n'y a pas de réponse, une question. Et c'est pas pertinent parce que même si je pouvais répondre à la question, si je pouvais vraiment trouver, à moins que la solution soit de retourner en arrière dans une machine, à voyager dans le temps, il n'y a rien que je pouvais faire. Alors, je suis vraiment une personne qui a besoin d'une intervention miraculeuse. Comment je vais faire ça, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir cette intervention? Avant que je puisse faire quelque chose à propos d'un problème, il faut que j'admette que j'ai un problème. Il faut que je l'admette, puis dans mon cas, avant de l'admettre, j'avais besoin de savoir qu'est-ce que c'était. C'était quoi ce problème? Et voici mon problème. On me dit qu'est-ce que c'est dans l'opinion du docteur, dans le gros livre. Je ne peux pas commencer à boire ou manger sans développer la rage d'en avoir plus. Ce phénomène suggère que j'aurais une allergie qui me différencie des autres personnes. Ça n'a jamais, il n'y a aucun traitement que l'on connaît n'a réussi à soulager cette maladie. Alors, le seul remède qu'on connaît, c'est l'abstinence complète. Alors, moi, je suis abstinente aussi les vendredis et samedis. C'est pas ça que je pensais que ça voulait dire au départ. Donc, j'ai une allergie et mon allergie se présente. Ça se manifeste pas par des éruptions ou des problèmes respiratoires, mais la façon dont ça se présente, c'est que j'ai un besoin insatiable d'en avoir plus, toujours. Très différent d'autres gens qui ont une rage de quelque chose et qui en prennent une bouchée et que là, l'envie diminue. Et puis moi, c'est le contraire. Je prends une bouchée et le besoin augmente. Il y a rien que je puisse faire à ce sujet-là. Le seul soulagement, c'est l'abstinence totale. C'est aussi important de comprendre que ce qu'on me dit, c'est que je suis distincte. Ça me distingue des autres personnes. Donc, passer toute ma vie à essayer de modérer et contrôler ma nourriture parce que c'est ce que les personnes normales peuvent faire. Mais moi, je suis pas normale. C'est écrit vraiment clairement. Je suis pas comme tout le monde. Je suis différente. Et ça ne peut pas être éliminé. Ça peut pas être changé par de la perte de poids. Donc, à chaque fois que j'ai perdu du poids, je pensais que j'avais plus de problème. Mais j'y pense de cette façon. Je dis souvent à des personnes que dans la première étape, si prends une feuille de papier en deux puis tu écrases bien la ligne du milieu, alors moi, sur une page, je mesure et pèse ma nourriture. C'est comme ça que je suis distincte. C'est clair pour moi ce que je peux et ce que je peux pas manger. Il y a des choses que je peux pas manger. C'est ça l'entière abstinente. Et je suis aussi une entité dictée. Comme me dit ce livre, ça dit que je peux pas marcher pleine de colère ou de me sentir supérieure aux autres. Je peux pas me battre. Je peux pas jouer à Dieu ni être le directeur. Je dois grandir spirituellement et je dois prier et méditer. Pas parce que ça me tente et puis que ça va avec mon amour de la théorie. Et puis, j'ai essayé. OK, moi, je suis sur un côté de la feuille, puis le reste du monde sont sur l'autre partie de la page, puis la ligne dans le milieu, elle est présente. Et mon plus gros problème, c'est quand je pense que je peux vivre de l'autre côté de la page où je n'ai pas du tout à faire. Alors, je pense qu'ici, il y a bien des personnes qui vivent du même côté de la feuille que moi. Je ne suis pas seule. Et puis, il y a peut-être ici là, 300 personnes ou plus qui peuvent vivre du même côté de la feuille que moi. Juste de savoir que j'ai cette allergie, Ça, c'est un problème. Mais pire que ça, c'est que... Mais j'ai un esprit qui me dit que j'ai pas ce problème-là. Alors que c'est pas si grave que ça, mais que tu peux le contrôler. Parce que j'ai cet esprit qui veut me faire manger à nouveau. C'est ça que ça fait. Et puis, si on en dit autre chose sur l'alcool, nos carrières de buveurs nous démontrent que à différentes occasions, on pourrait boire comme les autres personnes et de penser qu'on pourrait profiter de notre consommation comme les autres personnes. C'est ça notre obsession. Alors, moi, je suis arrivée dans OA au début de ma vingtaine et puis j'avais un but. J'allais perdre du poids. Je me suis battue avec mon poids pendant bien des années. J'étais vraiment misérable. Je faisais 280 livres. Je venais de graduer du collège. Puis, j'avais pas l'emploi que je savais mériter parce que mon corps envoyait une image qui reflétait pas mon intelligence. Puis mes amis, eux, se mariaient, puis moi, j'avais pas de compagnon. Donc, je me suis dit que j'allais perdre du poids. J'obtiendrais un bon emploi, je rencontrerais un homme et je me marierais. Ça, c'était mon objectif. Puis je suis arrivée à OA. Puis j'ai eu un très bon plan alimentaire. Et puis j'ai eu un bon plan alimentaire et puis je l'ai mis en pratique parce que c'était ma religion. Et puis l'abstinence était le Dieu que je suis certaine qu'il parlait à propos de Dieu et qu'on parlait de choses spirituelles, mais on m'a aussi donné une feuille. Qui me disait qu'est-ce que je pourrais manger, ça a fonctionné pendant que je fonctionnais.
C'était une très bonne diète, un excellent soutien. J'étais jeune et j'étais probablement motivé et j'ai perdu du poids. Et je suis parti. Je n'étais pas vraiment intéressé. Mais je ne voulais pas être une mangeuse compulsive. Je voulais être une personne normale. Je voulais avoir toute cette vie normale. Je ne voulais pas être distincte. Alors, je suis devenue mince, j'ai connu mon mari quand j'étais mince, et devinez ce qui est arrivé après. Il y a une histoire au sujet de l'alcool à la page 32. On parle d'un homme qui est resté sec pendant plusieurs années. Dans mon cas, c'était 5 ans environ, ce qui est un peu incroyable. Je vais citer ce que ça dit. Il y a tous les alcooliques ont connu une période d'une certaine abstinence, mais j'ai pris toutes mes forces, j'ai essayé tant que j'ai pu, j'ai trouvé que j'étais défaite, que j'y arrivais plus. Et tout pour Fred allait bien, à la page 41. Il dit. J'allais bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'était une journée parfaite, sans un seul nuage. Alors c'est moi ça pendant mon mariage. Je suis mince, je suis normal. Et je suis dans un costume de bain, dans la piscine. Et il y a un bar. Et je regarde autour et tous les autres jeunes couples sont en train de boire ces charmantes boissons et je me dis, moi aussi je pourrais faire cela. C'est mon, après tout, c'est ma lune de miel. Vous savez, je ne suis pas une alcoolique, mais je bois de l'alcool, je peux devenir saoul immédiatement et ensuite manger. Un, deux, trois, c'est immédiat. Je ne me souviens, je ne me rends pas, je ne me saoule pas. Je ne suis pas une alcoolique parce que je n'ai pas besoin d'un réveil spirituel pour arrêter de boire. J'ai arrêté de boire de l'alcool seulement parce que je ne pouvais pas être abstinente et ne pas boire d'alcool. Mais pendant ma lune de miel, j'ai pris cette consommation et je pense que c'est dans l'année qui a suivi, peut-être j'avais pris 100 livres. Comme ça. Le reste de ma lune de miel, on l'a passé dans la piscine avec le bar et je ne savais pas que j'étais impuissante. Je ne voulais pas arrêter. J'avais du plaisir. Alors, on ne peut pas faire une lune de miel sans boire un peu, n'est-ce pas? Et il faut aussi manger et boire. Et, hein? On mange, on boit, on mange, on boit. Au retour à la maison, mes vêtements ne me faisaient plus. J'avais déjà pris une vingtaine de livres. Voilà comment je mange, voilà comment je prends du poids. J'étais marié, j'avais un mari que j'aimais, un enfant que j'aimais, j'avais tout ce que j'aimais. Et j'ai mangé, et mangé, et mangé, et mangé. Ce n'est pas parce que j'étais dans un mariage malheureux. Je suis encore marié avec la même personne au bout de 27 ans. On a une excellente vie ensemble. J'ai joué au yo-yo en montant, en descendant. J'essayais de perdre ce poids. Mais je voulais le faire à ma façon. Ce programme ne fonctionne pas si vous voulez le faire à votre façon. Et c'est seulement quand j'ai été rendu à ma dernière fois, j'étais revenu de nouveau à Outre-Mangeur Anonyme. Et on est parti encore en vacances. Cette fois, j'avais des enfants. J'avais été abstinent. Mais je n'avais pas une relation avec une puissance supérieure, un Dieu. Vous savez, ce livre, il y a une mission, c'est de vous aider à trouver une relation intime avec une puissance supérieure qui peut faire l'intervention divine. Et la seule façon d'obtenir ce miracle, c'est d'avoir une relation avec votre puissance supérieure. C'est ça que ce livre vous dit. Je n'avais pas ça comme but et je n'étais pas intéressé. Pendant ces vacances, j'ai encore mangé et bu et il m'a fallu un bout de temps avant de revenir et il a fallu que je commence à travailler sur quand la nourriture n'a plus fonctionné, ma dernière fringale, ça c'est la vérité. J'ai mangé des shredded wheats qui goûtaient pas bon. Ça me faisait mal à la bouche et je pouvais sentir le sang dans ma bouche pendant que je mâchais. Et je me disais, je suis foutu. Je ne croyais pas en Dieu à cette époque et je me disais. Et pas longtemps après, j'ai trouvé de l'aide. Je pense que God, que Dieu a décidé de m'aider. Alors, je suis entré chez Lowe's pour, vous savez, on voulait refaire la salle de bain. J'étais dans OA. Il y avait des jeunes en OA dont je me tenais le plus loin possible parce qu'ils étaient trop sérieux et je voulais. Je voulais une version légère de OA, vous savez. Je voulais une version légère où je passerais une fois par semaine. Je vous dirais comment mon mari est ennuyant, comment les petites choses qui me dérangent. Et c'est ça que je voulais. Et les femmes dans cette réunion à qui j'ai demandé une fois de m'aider, mais je voulais pas son aide. Et quand elle m'a dit la vérité, j'ai fermé la ligne au nez. Alors, le jour où je rentrais chez Lowe's, elle était là. Et elle était au bout de l'allée. J'avais pris beaucoup de poids. Normalement, je me cache en particulier du monde de Oahu, vous savez. Vous savez, c'est fou, mais si je voulais pas y voir, je voulais revenir comme une gagnante, pas comme une perdante. Vous savez ce qui est arrivé ce jour-là? Mes pieds ont guidé mon corps et je suis allé la voir et lui dire, aide-moi, s'il te plaît. Elle m'a dit, merci. Et merci qu'il y a des gens comme elle qui m'ont jamais jugé au lieu de se dire, ah, pas encore elle. Chaque fois que je revenais, c'était comme un nouveau départ. Et j'ai suivi les étapes cette fois-là. On est chanceux, on a des directives et j'ai besoin de miracles. Et vous pouvez obtenir le miracle aussi en 12 étapes faciles.
La deuxième étape, on a parlé de ma première étape précédemment, mais la deuxième étape, alors, formule ta propre conception de Dieu. T'es pas obligé de prendre le Dieu qu'on t'a donné. Inquiète-toi pas à propos de ça. Moi, j'étais pas intéressée à Dieu. Je pensais que c'était trop, j'étais bien trop brillante pour Dieu. Puis j'ai aussi pensé que forge ta propre conception. Je me pense au-dessus des autres. Tu viens juste de me convaincre que mon esprit était brisé. Puis là, tu veux que je l'utilise pour concevoir un Dieu. Mais j'ai entendu cet autre message. Ma puissance supérieure sait comment communiquer avec moi. Et puis, la façon dont elle l'a fait. Elle est passée par la voix de mon père qui était décédé. Puis j'adorais mon père. C'est une personne incroyable. Et je croyais que mon père me dirait la vérité. Il me dirait, tu penses que tu es quelqu'un qui sait tout? Puis c'est un syndrome de la personne qui sait tout. Mais j'ai entendu la voix de mon père qui me dit, tu ne connais pas tout. Est-ce que tu veux aller mieux ou pas? Et c'est la vérité. Je voulais aller mieux. Et c'est toujours la question quand les gens disent, je sais pas si j'ai le désir. Je sais pas moi si j'ai la bonne volonté aussi, mais est-ce que tu veux aller mieux? Donc, une conception, c'est comme une idée générale, c'est comme un brouillon. Je pouvais partir de là où j'étais rendue. Je pouvais utiliser certains des termes suggérés par le livre, puis je pouvais me demander honnêtement ce qu'il signifiait pour moi. C'est ce dont on parle dans le chapitre sur les agnostics. Et puis, la suggestion, c'était parcourir le livre, trouver des termes spirituels, me demander qu'est-ce qu'il voulait dire pour moi. Donc, je pouvais commencer là. Je pouvais me faire une conception que Dieu allait être tout ou rien. Alors, j'ai comme choisi que j'allais faire confiance à Dieu. Donc, vu que j'ai le syndrome de la fille qui sait tout, là, j'ai pas besoin d'être en charge. Je suis pas très bonne quand je prends en charge de tout. Je mange. Je ne veux plus être en charge. Alors, à la troisième étape, j'ai tout confié à ma puissance supérieure. J'ai décidé que j'allais être son agent. Donc, je travaille pour lui. Il ne travaille pas pour moi, je travaille pour lui. Donc, j'ai juste demandé la force de faire ce que je pense que ma puissance supérieure voulait que je fasse et je le fais au mieux de mes capacités. Aux étapes 4 et 5, j'ai fait un inventaire rigoureux, puis j'ai vraiment tout écrit. Puis il y a vraiment des choses pour lesquelles je me sentais justifiée d'avoir peur, d'être en colère, d'avoir de la douleur. Mais j'ai entendu une autre voix qui disait, tu as le droit à plus que ça. Tu as le droit de mieux que ça. Donc, j'ai transmis mon inventaire à quelqu'un d'autre qui l'a reçu avec rien d'autre que de l'amour, sans jugement, que je m'ai jamais dit que j'avais fait des choses horribles aux étapes 6 et 7. C'est un travail d'une vie. Je collabore avec le retrait de mes défauts. Je suis pas en charge de les retirer, mais j'ai le devoir de collaborer. Donc, tant que je mets en pratique mes défaits, alors quand je m'abstiens, je peux être libérée du désir de manger. Et puis quand j'utilise des comportements je peux m'abstenir de mes défauts, ils sont dégagés. Les étapes 8 et 9, je fais des amendes qui m'ont fait peur. Certaines d'entre elles étaient très effrayantes. J'ai dû dire à des gens des choses que je voulais pas qu'ils sachent que j'avais fait. Ce programme-là nous promet qu'on devient authentiquement nous-mêmes. Donc, j'ai arrêté de me soucier de ma réputation et j'ai essayé d'être davantage préoccupée de mon intégrité. Alors, avant, moi, j'idolâtrais qu'est-ce que tu pensais de moi, mais maintenant, et je ne suis pas en paix quand je mets plus d'importance sur ce que tu penses de moi ou de mes mensonges. J'essaie de me présenter avec intégrité quand je dis que, alors, bon, pour la 10e, 11e, 12, j'ai tatoué sur mon bras l'amour et la tolérance sont mon code. Et ce sont la direction que j'obtiens de ces étapes. Ce qui me différencie comme entité différente. Mon code, c'est pas c'est bon, c'est pas bon, soit juste ou injuste. C'est l'amour et la tolérance. Donc, je dois être aimante et tolérante et faire la volonté de Dieu et lui laisser les résultats. J'ai une pratique sérieuse de prière, de méditation, parce que si je veux bénéficier d'une intervention miraculeuse, puis que je veux continuer à le recevoir, je veux garder mon canal ouvert, donc pour que je puisse être utile. Et puis quand je m'en venais partager ici, quand mes yeux se déposent sur les personnes à qui je partage, aide-moi à dire ce que je dois dire. Ce programme, c'est le plus grand trésor de ma vie. J'ai un but aujourd'hui. Je suis une fille qui sait tout, mais j'essaie d'acquérir de l'humilité en même temps. Ce programme-là fonctionne. C'est pour des gens qui ont besoin d'un miracle. Et puis, il y a un miracle. Merci. Qu'est-ce qu'on fait après avoir entendu ça? Merci, Mélissa, de nous avoir partagé ton expérience, force et espoir. Alors, en conclusion, après la fermeture de la session, nous aurons un tirage. Et puis après ça, c'est la fête. À chaque fois qu'on a un gros événement comme aujourd'hui, on nous demande toujours qui peut garder les centres de table. Ils ont vraiment fait un beau travail cette année. Ils sont magnifiques. Donc, alors, parlez aux gens qui sont à votre table. Puis, c'est la personne qui est venue du plus loin qui peut repartir avec le centre de table. Félicitations. Alors, on veut vous rappeler qu'il y a toujours des tasses, des signets et autres trucs qui sont à vendre. Alors maintenant, si on pouvait, on va terminer avec la prière de la sérénité. Alors la version au nous. Mon Dieu, donne-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la sagesse d'en connaître la différence. Et puis là, ça dit de terminer le webinaire. Alors, donc, c'est maintenant le temps pour le tirage. Et Laura et Scott, je vous invite.